Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil, écrivait Jean Anthelme, Brillat Savarin en 1825. Exagérait-il ? Eh bien, ce n'est pas Jean Pruvot, mon invité aujourd'hui, qui le contredira, puisqu'on lui doit un ouvrage fameux sur le fromage aux éditions Honoré Champion. Jean Pruvot, bonjour.
Bonjour.
Alors pour certains, votre voix sera familière puisque vous animez la rubrique « Mot pour mot » sur Canal Académie, mais vous êtes aussi professeur des universités à l'université de Cergy-Pontoise où vous enseignez la linguistique et notamment la lexicologie et la lexicographie. Vous dirigez également un laboratoire CNRS Université de Cergy-Pontoise consacré aux dictionnaires et à leur histoire. Et enfin, vous êtes directeur éditorial des éditions Honoré Champion. Votre passion pour les mots et les dictionnaires vous ont amené à rédiger cet ouvrage intitulé « Le fromage qui doit tout son mérite aux outrages du temps ». Et pour nous révéler tous les secrets sur le fromage, si cher à notre culture française, vous avez dû en décortiquer des dictionnaires, j'imagine. Alors, quelle est la plus ancienne définition du mot fromage que vous ayez trouvé, monsieur Pruvot ?
Alors, la plus ancienne, c'est dans le fond celle du premier dictionnaire, qui est un faux bilingue, qui est un dictionnaire latin-français, mais non pas latin-français, ça c'était celui qui avait précédé, mais en 1539, le dictionnaire de Robert Étienne, dictionnaire François-latin, et qui nous donne cette définition. Alors, on peut être étonné parce que c'est pas fromage, en fait, et si on cherche à FR, on ne le trouvera pas. C'est fourmage. Caseus, la traduction donc en latin, semble plus raisonnable écrire formage, car il vient de forma qui signifie l'éclisse. L'éclisse, c'était un treillis d'osier, c'est dans le fond la forme. Ou caseret, panier à égoutter le fromage, dedans quoi l'on fait le formage. Donc on a dans le fond avec cette première définition quasiment l'étymologie et l'idée que si le fromage est si bon, peut-être c'est que ça commence par une faute de français, peut-être. C'est l'interdit.
Et alors, vous dites dans votre ouvrage que les amoureux du fromage, finalement, on pourrait les appeler les caséilâtres ?
Oui, on pourrait les appeler comme ça, puisque, effectivement, la racine même du mot fromage, c'est caseus, formaticus. Donc, caseus, c'est le fromage qu'on retrouve dans la caséine. Formaticus, c'est la forme. Et donc, effectivement, c'est ce lait qui va cailler, qui va se développer, qui va se métamorphoser, qu'on met dans une forme, d'où le fromage. Et puis finalement, peut-être que si on dit très longtemps fromage, 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 on finira par dire fromage. Hein, c'est un peu comme ces personnes qui disent un infractus au lieu d'un infarctus. Alors là, c'est une faute, mais le fromage, bon, est passé dans la langue. Ça nous explique aussi, sans doute, des formules qui sont difficiles à comprendre. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi fromage de tête. En quoi, je demandais où était le fromage. Mais non, mais évidemment, si on comprend que c'est mis dans une forme à partir des débris de la tête, à ce moment-là, bon, on comprend tout à fait. Et puis, la fourme de Saint-Ambert, et là, on comprend aussi pourquoi ça s'appelle ainsi.
Et vous soulignez aussi le fait que l'Académie française a été au petit soin avec la définition du mot fromage, puisque vous la donnez donc dans cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous la relire, Jean Pruvot ?
Alors, vous redonnez l'Académie qui est effectivement au petit soin, en rappelant que ce qui est formidable dans le dictionnaire de l'Académie, qu'il s'agisse de celui du XVIIe ou de celui du XXe, c'est que c'est vraiment l'usage qui est décrit avec énormément d'exemples, et le plus souvent la meilleure définition. Donc fromage, la définition par l'Académie, c'est sorte de laitage caillé et égoutté. Et puis on a toute une série, effectivement, eh bien, d'expressions, ou en tout cas mise en usage, d'adjectifs, puisqu'il s'agissait aussi de donner les épithètes. Il y avait eu des dictionnaires d'épithètes autrefois. Fromage molle, fromage à la crème, fromage dur, fromage raffiné, fromage de Roquefort, fromage de Hollande, fromage de... Alors, c'est pas l'homme politique, hein, bien sûr, là. Fromage de Milan, fromage de Gruyère, fromage de lait de vache, fromage de lait de chèvre, de la soupe au fromage. Et ça, c'est intéressant, parce que on a là des usages, et on peut dire, tiens, le Roquefort est déjà si célèbre qu'il est reconnu par l'Académie comme devant faire partie des fromages à citer. Hein, le fromage de Hollande aussi. Fromage de Milan nous indique par exemple là que le mot n'est pas resté. On dit encore un Roquefort, on dit encore un Hollande, mais un Milan, bon, on ne le dira plus. mais ça nous indique qu'à l'époque, c'était très important. Quant à la soupe au fromage, bon, bah, c'est peut-être à découvrir. Hein.
Alors, et puis dans votre ouvrage, Jean Pruvot, vous parlez du fromage, évidemment, mais aussi de ceux qui le fabriquent. Et au XVIIIe siècle, par exemple, qui était le siècle des Lumières, mais aussi celui du commerce florissant, le fromager, les marchands de fromage, étaient considérés comme des gens qui faisaient fortune, des gens riches.
Oui, on a des citations de Voltaire et d'autres qui disent « J'étais fort riche et me voilà ruiné. » Et c'est vous dire « J'étais fromager ». Alors ça veut dire que vraiment le fromage était bon. Hein. Il nous en est resté un petit peu de cette idée que le fromage enrichit. Et donc on a effectivement, avec le lait et tous ses développements, une fortune qui peut se faire. Il se conserve, le fromage. Il se transporte et par conséquent, c'est une valeur, je dirais presque sûre. Il est international, tout le monde aime le fromage et par conséquent, on a véritablement un trésor dès qu'on est fromager. Du coup, on aura des associations aussi hein, qui vont se créer, bien sûr.
Alors Jean Pruvot, le nombre des fromageries au fil des années, au fil des siècles, n'a cessé d'augmenter ?
Oui, ça n'a cessé d'augmenter avec notamment l'usage bien de coopératives en quelque sorte. Comme ça devenait un objet de forte consommation, on s'oriente vers une production qui soit conçue avec des moyens mis en commun. Et à partir de là, on commence à évoquer les fruitières. Alors les fruitières laissent un peu rêveur parce qu'une expression comme ça nous pousse du côté des fruits. Et à 15 ans, si on demande à un enfant ce qu'est une fruitière, sauf si évidemment il est fils de fromager, il dira tout de suite qu'il s'agit de fruits. Non, c'est le sens de fruits, fructifier, d'être fructueux. Et c'est donc pour remédier à cet inconvénient que chaque paysan ayant trop peu de lait pour en faire un grand commerce, on va lire ici bon, un extrait d'ailleurs de l'encyclopédie, que les cultivateurs intelligents des environs de Genève et des montagnes du Doubs et du Jura se sont réunis en association. L'encyclopédie moderne au XIXe siècle va un peu plus loin dans les précisions. Et ça, c'est très intéressant. Et je reviens à la consultation des dictionnaires bon, qui m'ont servi pour écrire aussi bien les élections que le loup et quelques sujets que ce soit. Ce sont des témoignages parfois chiffrés. Et ça, c'est assez difficile à trouver, évidemment. Or, le dictionnaire, parfois, parce qu'il s'adresse à des gens de son époque, donne des chiffres. Et là, on dit que pour 50 vaches, il y a un maître fruitier, un aide, un premier gamin et un deuxième gamin. Et pour nous, c'est intéressant aussi le mot « gamin ». C'était un mot donc attaché aussi, presque professionnellement, au fruitier. Le maître fruitier traie les vaches, fait le fromage, l'emmagasine et le soigne. L'aide traie les vaches, coupe du bois dans la forêt, fait le service et surveille les gamins. Bon, c'est presque chaleureux. Le premier gamin traie les vaches et les garde. Le deuxième porte le lait dans la chaudière, le passe et fait exactement le service d'un chien de berger. Et puis, on a des précisions financières. Le maître fruitier reçoit environ 80 francs. Alors, c'est par proportion qu'on se repère. L'aide reçoit 50 francs, le premier gamin 15, et le deuxième, bon, bah, il a toute sa carrière à faire. Hein. Il faut fructifier, il faut qu'il fasse fructifier ses 12 francs. C'est pas encore beaucoup. Et alors, les vaches donnent en moyenne 8 à 9 litres chaque jour. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et une fruitière produit par jour deux fromages de 15 à 20 kilos chacune. Alors après, évidemment, tout ça s'est développé de manière considérable.
Et alors, il y a une étape que vous décrivez dans votre livre, que vous décrivez presque avec poésie et beaucoup de précision, c'est l'étape de l'affinage.
Ah oui, alors là, l'affinage, évidemment, est quelque chose...
Une étape essentielle.
Une étape essentielle, bah, qui consiste... Alors, où on s'en rend compte, c'est notamment pour des fromages comme le Roquefort ou d'autres fromages où on teste à l'aiguille qu'on enfonce dans le fromage et si on la retire et qu'il n'y a pas de fromage collé dessus, alors il est prêt. Et c'est cet affinage qui véritablement fait le talent du fromager et qui fait aussi la différence entre les fromages. Parce qu'évidemment, plus il est affiné, et meilleur il sera pour certains, d'autres le préfèrent moins affiné. Donc c'est là que se situent toutes les distinctions, toutes les différences. Alors je le décris très précisément, mais à la limite, chaque fromage a son affinage.
Et je dirais presque qu'il y a presque une sensualité entre le fromager et le fromage, puisqu'il y a beaucoup de temps passé. Vous citez aussi l'importance des lieux.
Oui.
Forcément de la conservation,
alors,
etc.
L'importance des lieux, parce que s'il y a un produit qui est attaqué par les mouches, par exemple.
Voilà, vous citez aussi les ennemis.
Voilà, il y a des
fromage.
Ennemis terribles du fromage. Le premier, effectivement, ce sont les mouches, donc ça suppose beaucoup d'hygiène. Parce que les mouches ont très rapidement pondu leurs œufs, et évidemment un fromage qui avance tout seul, c'est sympathique, mais ça aussi ses limites, et tous les fromages ne le supporteraient pas. Et puis il y a la décomposition. Et là, pour la décomposition, on a énormément énormément travaillé sur des choses qu'on a oubliées, mais par exemple les os, les os de boucherie calcinés au feu, réduits en poudre, sont d'un effet certain, nous dit-on, au 19e. Les fromages sont saupoudrés de cette poudre calcaire inoffensive. Il vaut encore mieux y plonger entièrement les fromages placés dans une caisse de bois sans couvercle, parce que sinon, eh bien, on nous précise que les mouches ne pourront ainsi pas les atteindre, et sinon les mouches déposent leurs œufs qui engendrent les vers. Alors on a comme ça toutes sortes de systèmes, il y a aussi l'huile, bon, et il y a l'idée d'asticots. Alors parfois, on est à la limite de la gastronomie qui aujourd'hui nous répugnerait. Hein. Bon, je sais pas, vous avez sans doute lu tout ce qui concerne le fromage de Lyon, notamment avec les asticots au thon d'ivoire. Alors, on lit ça pour un fromage de la Croix-Rousse. Ça laisse un peu rêveur aujourd'hui. Ce n'est plus l'asticot au thon d'ivoire, bien en chair, appétissant, qui gigote sur l'assiette, que l'on savoure avec délices. Bon, alors là, je pense quand même qu'on est un peu éloigné, en tout cas du vache qui rit, mais aussi des fromages qui sont dans notre assiette. Et à la Croix-Rousse, justement, on faisait un fromage extrêmement fort, qui avait été déjà décomposé avec des asticots qu'on enlevait soigneusement et qu'on retraitait ensuite. Donc on a des fromages qui peuvent un peu effrayer, hein, quand on réfléchit dans le fond, le fromage c'est une magnifique moisissure, hein, souvent, notamment le Roquefort.
D'ailleurs il y a cette citation de Clifton Fadiman qui dit que le fromage c'est le lait faisant un saut vers l'immortalité.
Ah, c'est vrai,
une très belle citation que vous nous livrez dans votre ouvrage. Et alors le fromage, chose étonnante, a aussi, vous le citez à travers différentes définitions de dictionnaire, a aussi des vertus médicales.
Oui, alors elles sont détectées, c'est un peu comme le chocolat. Quand j'ai écrit le chocolat, là aussi j'ai découvert qu'il y avait des vertus. Mais le fromage, c'est très surprenant, lorsque Thomas Corneille, en 1694, frère de Pierre Corneille, il y a eu de très belles émissions hein, à Canal Academy sur Corneille, lorsque celui-ci écrit le dictionnaire des arts et des sciences, évidemment il s'intéresse à ce qui est scientifique. Et là on est un peu surpris parce qu'il explique notamment que le fromage coulant sur un œil enflammé, eh bien, est du meilleur effet. Peut-être pas esthétique, ni olfactif, mais en tout cas pour la santé. Donc voilà comment il joue sur les choses. Et un peu plus loin, on trouvera qu'un fromage aigre et sûr, alors là, un peu dur, mis sur le pied du podagre et de celui qui a la goutte, donc, eh bien, est du meilleur effet. Alors imaginez, si vous êtes atteint des deux infections, de se promener avec un fromage. On peut essayer, mais je pense pas que ce soit bienvenu quand même. Et cela dit, évidemment c'est répugnant et on a heureusement des médicaments aujourd'hui, mais il y a toujours un fond de vrai, parce qu'il y a des produits comme dans le chocolat qu'on découvre après et qui ont des effets positifs. Le fromage évidemment est très nourrissant. On a beaucoup parlé de la santé et du fromage, comme de la santé et du chocolat d'ailleurs. Les deux sujets sont assez proches et on s'est aperçu que ce que spontanément on avait relevé, repéré, ben après les scientifiques ont trouvé des vertus effectivement à tel ou tel produit. Le Roquefort, bon, on s'est aperçu que cette moisissure elle pouvait être très positive.
Mais il y a aussi la maladie du fromager.
Oui, alors là, bah, c'est les mains qui sont constamment, la peau, constamment au contact, évidemment, des acariens notamment, puisque les acariens jouent un grand rôle, et qui, chez certains fromagers, bon, créent des ravages. Hein. Bon, ça fait partie des maladies professionnelles, évidemment. Pour nous, on ne se promène pas toute la journée avec un fromage dans la main, heureusement. Ça serait difficile pour saluer quelqu'un.
Alors Jean Pruvot, vous dites dans votre livre que le fromage avait aussi ses détracteurs et que par exemple on lui donnait ce surnom du biscuit de l'ivrogne. Et pourtant vous expliquez aussi que le fromage plaisait beaucoup à la haute société. Alors est-ce que finalement le fromage reste un aliment du peuple ou bien un aliment plus noble qui est consommé à la cour par exemple ?
Alors c'est quelque chose de très intéressant parce que je dirais que un peu contrairement au chocolat qui est quand même toujours une sorte de luxe, de plaisir et de délice, et qui n'est pas, comme en Espagne, populaire. En Espagne, un pauvre qui n'avait pas de chocolat, c'est comme s'il n'avait pas de pain au XVIIe. Le fromage, alors il était sur la table des grands, de grands fromages. Il l'est toujours avec beaucoup de distinction. Et c'est assez curieux parce que, dans le fond, il est presque démocratique. Un très bon camembert sera aussi bien sur le banc du malheureux sans domicile fixe qui a son litre de vin et son fromage très olfactivement actif sur un banc de Paris ou d'un parc. Et puis l'autre côté, dans un grand restaurant, on servira un grand fromage aussi, et quasiment le même parfois. Et donc c'est très réparti. Et c'est là où quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est la littérature et les citations qui ont été données, parce que vraiment, on a beaucoup parlé du fromage en littérature.
Ça, la littérature s'est emparée du fromage, et notamment Zola. Vous avez cité des pages magnifiques de Zola.
Oui.
San Antonio aussi.
Oui, San Antonio. Alors, Zola, bon, c'est merveilleux. Je ne sais pas, on pourrait... voilà, par exemple, dans le ventre de Paris. Hein, c'est dans le ventre de Paris, puisqu'il s'agit des Halles. On est en 1873. Et Zola était parti enquêter. Et j'ai donc mis, d'ailleurs, dans le dictionnaire, à côté des illustrations bon, que j'essayais de tirer, qui sont souvent très originales, vieux dictionnaire ou d'autres ouvrages. À côté de ces illustrations, j'ai réussi à retrouver les carnets de Zola dans lesquels il prend des notes sur le livre à venir. Alors, avant le carnet de Zola, voilà par exemple ce que ça donne dans le ventre de Paris. « Alors commençaient les puanteurs, les monts d'or jaune clair, puant une odeur douceâtre, les trois très épais, meurtris sur le bord, d'âpreté déjà plus fort. » Ajoutant une fétidité de cave humide, le camembert d'un fumé de gibier trop faisandé, les Neuchâtel, les Limbourg, les Marolles, les Pont-l'Évêque carrés, mettant chacun, chacune leur note aiguë et particulière dans cette phrase rude jusqu'à la nausée. Alors bon, un peu plus loin, je résiste pas, vous m'avez embarqué sur Zola, je suis parti. Trois bris sur des planches rondes avaient des mélancolies de lunes éteintes. Deux, très secs, étaient dans leur plein. Le troisième, dans son deuxième quartier, coulait, se vidait d'une crème blanche étalée en lac, ravageant les minces planchettes à l'aide desquelles on avait vainement essayé de le contenir. Moi, je trouve que c'est vraiment de la prose, un poème en prose, quoi, c'est magnifique.
Et d'ailleurs, vous avez pris soin de faire un index de beaucoup de citations, beaucoup d'expressions dans lesquelles on retrouve le fromage.
Alors vraiment, je vous remercie de signaler cela. Bon, l'objectif de ces ouvrages, c'était qu'ils soient pas chers, moins de 10 euros. Bon, ça c'est réussi. C'était qu'ils soient érudits. Mais en même temps, pour tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir je ne sais pas, qu'un curse dans le texte. Bon, ça serait stupide. Et en même temps, extraire des vieux dictionnaires ce qu'il y a de mieux. Et ça intéresse aussi bien celui qui connaît déjà très bien le fromage, le fromager, qui dans le fond n'a peut-être pas consulté le Richelet, le Furetière et le Maurice de Laporte de 1571. Et c'est logique, c'est ma spécialité, donc je l'offre. Et en même temps, eh bien, permettre une consultation. Dans le fond, c'est un livre de grand plaisir, illustré de manière originale. Enfin, je ne fais pas l'apologie, mais je suis tellement enthousiaste pour ces dictionnaires. Et en même temps, un ouvrage de consultation avec l'index. Ça me fait plaisir de vous évoquer l'index parce que j'y passe beaucoup de temps pour qu'on puisse... On met camembert, on trouvera les 7 ou 8 références. Et parfois, sur des mots très précis, les écrivains, on trouvera la citation. Qui n'est pas forcément toujours dans la citation. Elle peut être ailleurs, en épigraphe. Ou...
Alors justement, vous avez parlé du camembert. Ça va me permettre de rebondir sur ce fromage qui est tant connu dans notre patrimoine français. Et alors, vous expliquez d'où vient la boîte qui a une histoire chargée de symboles. Je vous laisse nous la conter.
Ah oui, j'adore aussi les contenants. Il y a le contenu, c'est évidemment ce qui fait notre grand bonheur, mais le contenant, c'est-à-dire ces boîtes de camembert, dont il y a des collections magnifiques, hein, il y a des gens qui font ces collections, donc ont eu beaucoup d'importance. Alors parmi les citations, pour faire le lien avec Léon-Paul Fargue, qui disait que le camembert, c'est une citation connue, c'était les pieds du bon Dieu. Bon, ça donne évidemment tout un univers. Alors on explique comment on fait un camembert, et très vite, eh bien, ce fromage gras de lait de vache à pâte molle, on l'a tout d'abord enveloppé dans de la paille au siècle de sa création. Et puis c'est Riedel qui, en 1890, a l'idée de l'installer dans une boîte qui est cylindrique pour garantir donc à cette pâte de plus longs voyages. Parce que le problème du camembert et du fromage en général, c'est de le faire voyager. Alors quand il est à pâte molle, évidemment, c'est plus dur. Et c'est comme ça qu'il a été offert aux soldats et qu'il est devenu vraiment très populaire. Et on en voit des traces, la littérature, l'encyclopédie, tout ça se mêle. Quand Maurice Fombeur dans Soldat, on est en 1935, ou Henri Barbusse dans Le Feu, on est en 1916, évoque ce soldat qui, alors je je cite, utilise une bougie dans la suspension qu'il a fabriquée avec une boîte de camembert et du fil de fer. Bah voilà, la boîte de camembert passe dans l'histoire. Et puis ensuite, bien évidemment, on aura les titres des boîtes. Hein. On a tous eu le petit caporal. Il y a eu des thèmes qui reviennent en permanence. Alors, il y a des chiffres, parce que j'essaie aussi d'en faire un ouvrage littéraire, culturel, mais aussi encyclopédique. Sur 185 000 tonnes de camembert, 9300 seulement sont du camembert véritable. On trouve le camembert de Normandie, évidemment, d'appellation contrôlée, mais le camembert fabriqué en Normandie, qui est encore autre chose, et des quantités d'autres, y compris en Belgique et en Californie, où on fera du camembert. Pas forcément mauvais, d'ailleurs. Enfin, allons aux sources, évidemment. Aux sources du camembert, c'est tout un programme.
Et alors, on ne pourrait pas parler du fromage sans évoquer le fromage peut-être le plus connu des enfants, la vache qui rit.
Oui.
Et vous nous décryptez le mystère de ce dessin, donc de cette fameuse vache avec ses boucles d'oreilles, qui finalement vient aussi et trouve ses origines des soldats.
Oui, alors, tout à l'heure, vous avez évoqué l'affinage. Vraiment, c'était important de le signaler. Et c'est un affineur de Comté, donc le fromage, le Comté, qui s'appelle Léon Bell, il a 36 ans, et il fait partie des troupes qui ravitaillent en viande fraîche donc les soldats du front, au cours de la Première Guerre mondiale. Et il est question de lancer un concours pour un emblème qui soit peint sur les véhicules et notamment sur les camions, parce que les soldats s'ennuient un peu, il faut les égayer, il faut faire quelque chose. Et alors c'est Benjamin Rabier, pas encore célèbre, qui emporte le concours avec ce dessin chaleureux d'une vache hilare, évidemment, qui orne donc les camions de ravitaillement. Et alors là, alors il y a des moments où on n'est pas très sûr, donc c'est une légende, mais je ne l'ai pas vérifié, donc je l'ai dit en expliquant que c'est un bruit qui court. On était pendant la guerre de 14, on est évidemment confronté aux Allemands, et avec des hymnes allemands, et Wagner, et les Valkyries. Et à ce moment-là, il y a un jeu de mots, rien n'est vraiment confirmé qui aurait traîné. C'est peut-être une histoire reconstruite a posteriori, hein, faut se méfier de ça, mais en tout cas, bon, elle mérite d'être signalée. Ou quelqu'un dira, c'est pas les Valkyries, c'est les Vachkyries. Et il semblerait que ça pourrait être l'origine entre ce dessin d'une vache hilare, le fromage et Vachkyries. Alors, ce qui se passe, c'est que Léon Bell n'oublie pas tout ça. Et en 1921, il est à la recherche d'un nom pour un fromage fondu qui allait donc faire sa célébrité. Il choisit pour emblème la vache qui rit. Il recontacte Benjamin Rabier. On refait un petit peu le dessin. Il y a plusieurs quand même maquettes. Et puis ça va être un succès mondial au point que vous allez m'obliger à prononcer de manière catastrophique l'anglais. Parce que la vache qui rit en anglais, il y a des gens qui se prononcent très très bien. Mais to laugh, L-A-U-G-H, et le laughing cow. Donc voilà, comment on dit, la vaca que rie en espagnol. La vaca queridée, je prononce peut-être mal, en Italie. Et puis alors, je suis allé chercher dans les pays arabes, au Vietnam, en Russie, au Japon, à Madagascar, la vache qui rit a un succès mondial. C'est peut-être le fromage le plus traduit dans le monde entier. Et qui reste évidemment... ce qu'il faut retenir, c'est que c'était techniquement très novateur. C'est-à-dire que c'était un fromage mou, mais qui, grâce à cet emballage d'aluminium, de papier, est bien résisté et donc a pu, comme ça, éviter d'être conservé trop longtemps dans les frigidaires. Donc c'était aussi un fromage révolutionnaire.
Et qui continue aujourd'hui à séduire les jeunes enfants et même les adultes.
Ben oui.
Et enfin, pour conclure, Jean Pruvot, je vais reprendre cette idée que vous reprenez vous-même d'Alain Rey sur le fait que le fromage, finalement, est chargé du passé, que si on l'aime tant, c'est aussi parce qu'il est porteur d'une symbolique de la nature, qu'on retrouve peut-être un contact avec le monde rural et les choses simples de la vie. Alors, est-ce que vous maintenez cette idée d'Alain Rey, vous aussi ?
Oui, alors, je la maintiens d'autant plus que, en fin de parcours, j'ai souhaité faire la liste de tous les fromages. Mais alors, on peut faire une liste alphabétique, c'est pas très intelligent. On peut faire une liste par région, bon, c'est intéressant, mais souvent, par exemple, camembert, il n'y a pas que, évidemment, en Normandie. Et alors, du coup, j'ai fait des tableaux, des listes, et notamment par rapport aux formes, ou par rapport aux couleurs, ou par rapport aux animaux évoqués, ou par rapport encore à la religion. Et donc, ça ne manque pas de charme, parce que si on prend, par exemple, les formes, on va trouver aiguille, et c'est un fromage des Hautes-Alpes et des pays de Champsaur, baguette, bar, bondard, bondon, boule, la boule des moines, un morvan, boulette, bourle, bouton, bûche, brique, brousse, bûchette, carré, cervelle, claque-bitou, cœur, crottin, dent, dôme. Bon, la liste, évidemment, vous voyez qu'elle pourrait être longue. Pour les couleurs, on va trouver le bleu d'Auvergne, la tulipe noire, la tome noire des Pyrénées. Et donc, on va se retrouver avec, effectivement, une sorte de ronde des différents noms de fromages. Et c'est ça qui est assez émouvant. Et il y a végétalement, et voilà la nature, pour répondre plus directement à ce que vous venez de me dire, on aura les chaumes, on aura la fleur du maquis, on aura la figuette de Pyrénées, le fruité du Boulonnais, l'herbillette, la misotte, le paillasson de l'île d'Oléron, parce que j'ai évoqué aussi le Québec et la Suisse, où le hasard a fait que je voyageais au Québec au moment où je finissais l'ouvrage. Et j'ai visité des fromageries du Québec qui est en pleine renaissance, chez nos amis d'Amérique du Nord, en revenant de France. Les sarments d'amour aussi, on peut peut-être terminer sur des mots beaux, hein. Sarment d'amour, petit fiancé, plaisir, chant d'amour, ami du Chambertin. Voilà aussi des mots qui relèvent d'une symbolique forte. Et c'est vrai, donc on est vraiment au cœur de l'être humain quand on parle du fromage. Ça nous met en forme, sans jeu de mots.
Eh bien aussi, pour conclure, Jean Pluvaux sur cet ouvrage, je vais vous demander de choisir une citation d'un auteur que vous appréciez particulièrement.
Alors bon, là, c'est presque impossible, vous savez, de choisir une citation. Peut-être une expression quand même suivie d'une citation. Il y avait fromage et dessert, vous savez, c'est une formule qu'on a utilisée parce qu'on prenait l'un ou l'autre et on prend l'un et l'autre et c'est mieux. Et donc se retirer dans un fromage de Hollande, ça manquait pas de charme et ça revient évidemment fortement. Et si on cherche alors une belle citation pour terminer, je vais vous en donner une qui... vous voyez que je suis en train d'essayer de choisir dans mes citations parce que c'est très dur, on pourrait partir sur Maître Corbeau sur un arbre perché, mais bon, c'est trop connu. On pourrait partir encore sur La Fontaine, un certain rat, là des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. Mais je pense que je vais choisir. C'était une cacophonie de souffle infect, depuis les lourdeurs molles de pâte cuite, du gruyère et du Hollande, jusqu'aux pointes alcalines de l'olivet. Je termine sur une note olfactive et sur Zola, parce que c'est peut-être celui qui en a parlé le mieux.
Eh bien, merci Jean Pluvaux. Donc, je rappelle cet ouvrage pour les amoureux du fromage, mais un ouvrage qui se lit aussi comme un roman, comme une histoire, dans lequel on retrouve énormément d'expressions, on retrouve tout un tableau par région. Vous parlez d'une symphonie des terroirs, un très joli terme aussi. Et donc, on va se quitter là, en attendant peut-être le dessert. Merci à vous, Jean Pluvaux.
Merci.
Et
beaucoup.
À bientôt sur Canal Académie, puisqu'on vous retrouvera pour votre rubrique Mot pour mot.
Merci.